Ce soir, on va continuer l'étude sur la série l'appel au ministère que Dieu fait dans nos vies. Avant de penser qu'on est dans le ministère comme Billy Graham puis un tel des grands personnages de l'histoire, Dieu nous appelle à le servir, peu importe qu'on ait un titre ou qu'on n'ait pas. Ceux qui ont le titre d'évangéliste ou ceux qui ont le titre de pasteur ou ceux qui ont le titre de docteur ou ceux qui ont un titre d'apôtre, peu importe le titre, que tu aies un titre ou que tu n'en aies pas, tu es appelé à servir Dieu. Dieu nous a appelés à le servir. On a des ministères, même si ça ne s'appelle pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, mais on a des ministères de prière, ministères de louange. La semaine passée, on a vu ministère dans le social ou dans notre niveau séculier. Quand tu es une personne qui travaille dans ce monde, qui va travailler, qui prend le temps d'aller travailler, qui prend ses responsabilités dans la société, puis qui obéit aux lois qui sont là, c'est un ministère devant Dieu. Dieu nous demande d'être fidèles là-dedans. Ce soir, on va voir encore un ministère de base pour tous les chrétiens. Puis on va en voir encore quelques-uns pendant les semaines à venir. Ce soir, ça s'adresse le ministère de base pour tous les chrétiens dans leur vie séculière, dans leur vie de tous les jours, le rôle puis la responsabilité de l'homme et du mari. C'est le sujet qu'on va voir ce soir. Dieu nous appelle, là je parle aux hommes ce soir, c'est sûr que les femmes vont être là, ils vont écouter, les femmes vont écouter, ils vont pouvoir dire « Amen » de temps en temps. Quand les hommes se font parler. Mais la semaine prochaine, je vais parler du ministère des femmes. Là, ça va être le tour des hommes à dire Amen, puis à prier pour leurs femmes. Il est important de savoir que être ce qu'on est, selon l'appel que Dieu nous a donné, c'est une tâche, c'est un service que Dieu nous a appelé. Si tu es venu au monde homme, c'est parce que Dieu voulait que tu fasses des choses. Tu as des tâches et tu as des responsabilités en tant qu'homme. Si tu es venu au monde femme, mais tu as des tâches et tu as des responsabilités en tant que femme. On a tous des tâches et des responsabilités selon l'appel que Dieu nous a donné, selon les capacités qu'il nous a données. Pour commencer, on doit apprendre que depuis le début de la création que Dieu a faite, on le sait, là, l'histoire de la création que Dieu a créé l'homme, après ça, il a créé le jardin. Puis Dieu a mis l'homme dans le jardin, puis Dieu a rendu l'homme responsable du jardin. Il devait garder le jardin puis le cultiver. La responsabilité a été donnée à l'homme de gérer le jardin puis de le protéger. Puis Dieu, quand il a mis l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, puis il a mis l'arbre de la vie éternelle qui donnait la vie éternelle, Dieu avait donné à l'homme la responsabilité de garder l'arbre du bien et du mal, puis de ne pas en manger, puis de veiller à ce que personne n'en mange, puis il avait donné la liberté de manger de toutes les autres arbres. Ensuite, Dieu, il a dit qu'il n'était pas bon pour l'homme qu'il soit seul, il a fait une aide pour son mari. Une aide qui devait être là pour accompagner son mari dans le ministère que Dieu, dans le ministère et les responsabilités que Dieu a données à l'homme. Parce que Dieu a rendu l'homme responsable du jardin et de toute sa création. Mais Dieu a donné une femme à ses côtés pour l'aider et le seconder dans son ministère. Maintenant que l'homme y est en charge dans les responsabilités, Dieu a rendu l'homme responsable. On sait qu'il y a eu une chute et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est là pour apprendre quelle est la responsabilité d'un homme en tant que chrétien. Souvent, on est un homme, puis quand on se sent homme, on se dit, mais là, Dieu nous a établis, c'est nous autres les responsables, c'est nous autres les boss, puis je me fous des autres autorités, moi je décide, puis c'est moi je gère ma vie comme je le veux. Mais Dieu nous apprend que quand t'es chrétien, t'as des autorités qui sont au-dessus de toi. Nous ne sommes pas l'autorité suprême. Moi je ne suis pas Dieu, je suis qu'un homme, puis Dieu il a établi d'autres autorités au-dessus de moi. Fait que là, l'homme doit apprendre à gérer sa vie en apprenant à se soumettre aussi aux autorités supérieures. Il y a un passage dans Romains 13 qui nous parle de cela. 13.1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Toutes les autorités, quand on parle d'autorité, en français, on dit des boss. Il y a des boss. Il y a des plus hauts gradés que nous. Dans notre maison, on se dit on est boss, ça c'est correct, dans notre maison. La minute qu'on met un pied dehors, on tombe sous l'autorité de quelqu'un qui est plus élevé que nous. Les humains ils ont établi un système d'autorité dans ce monde. Tu as tous les rangs de hiérarchiques, comme dans le Canada, nous autres, on a le premier ministre, les ministres, il y a le système de la loi, les juges, les policiers. Tout ça, là, le système d'autorité qu'il y a dans ce monde, c'est Dieu qui a institué ça. Puis Dieu nous demande de soumettre en tant qu'homme, on doit apprendre à être capable de soumettre aux autorités qu'il y a là. Fait que quand on sort dans la rue, on prend notre auto, on se promène, faut respecter les limites de vitesse. Quand on fait des choses, faut connaître les choses. Puis quand on les connaît, on faut se soumettre. Parce que si on résiste à l'autorité qui est établie, on résiste aux ordres que Dieu a donnés. Dieu a établi ces lois-là pour nous apprendre. Comme qu'il avait établi des lois à Adam et Ève, puis c'était pour leur apprendre à obéir. Puis en même temps, l'homme est mis à l'épreuve par les lois. Puis Dieu voit si on veut se soumettre ou on veut se rebeller. Après ça, Dieu a établi l'homme comme autorité. On va voir un passage dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 3 qui nous dit « Je veux cependant, ça c'est dans le Nouveau Testament, puis ça va faire un petit quelque chose pour ceux qui ne la connaissent pas, ce verset-là. Je veux donc cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Dans la vie, comme j'ai dit tantôt, il y a des autorités. Une autorité, entre autres, que Dieu a établie, c'est que Christ est le chef de tout homme. Tous les hommes sur la terre devraient être soumis au Christ. Le Seigneur, Jésus, est l'autorité suprême au-dessus de toute la création. Autant qu'au début de la création, Dieu a donné à l'homme de régner puis de gouverner sur la terre, puis d'assujettir les animaux, puis ainsi de suite. Dieu a comme installé l'homme dans une certaine autorité, mais il faut jamais oublier que nous, en tant que chrétiens, on est assujettis à l'autorité du Christ. Le Seigneur Jésus a donné ses règles, ses lois, ses enseignements dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose qui doit nous mener en tant qu'homme. Puis dans le passage que je veux emmener, c'est que Paul, quand il l'a dit, ce passage-là, dans son contexte, il dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ, mais tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. » Qu'est-ce que Paul voulait enseigner dans ce passage-là? Il voulait établir les hiérarchies, puis il veut établir, Dieu, il veut qu'on apprenne dans cela que l'humain a à se soumettre, qu'il y a une autorité au-dessus de lui, ça c'est Christ. Tout homme doit apprendre que Christ est l'autorité, puis même le Christ a son autorité, c'est Dieu. Le Christ n'a pas donné d'enseignement ou de révélation, ou il n'a pas parlé sur la terre d'autre chose que qu'est-ce que Dieu, son Père, lui a révélé. Jésus a appris à se soumettre en toutes choses à son Père. Puis là, il nous demande dans le Nouveau Testament que tout homme doit apprendre à obéir au Christ en toutes choses. Nous, une fois qu'on se convertit, qu'on devient chrétien, on doit comprendre que, en tant que chrétien, les hommes doivent faire tout ce que le Seigneur a décrété dans sa parole. Puis là, il nous parle d'une marque de l'autorité dont on dépend. Il dit, Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Dans ce passage-là, l'apôtre Paul, quand il a donné cet enseignement-là, il voulait démontrer qu'un homme qui est dans une autorité placée par Dieu, que Dieu l'a béni, puis l'a placé en autorité sur la femme, puis l'a placé en autorité sur la planète, doit avoir une marque de l'autorité dont il dépend. Puis il dit que s'il prophétise ou il prie en ayant la tête couverte, il déshonore son chef. Puis en lisant ce passage-là, on s'aperçoit que Paul enseignait que les cheveux étaient une marque de son autorité, puis qu'un homme ne devait pas avoir la tête couverte. C'était une honte pour son chef que l'homme se couvre la tête. En signe de soumission, un des signes de soumission qu'un homme chrétien doit avoir, c'est qu'il doit ne pas avoir la tête couverte lorsqu'il prie ou lorsqu'il prophétise. Il doit apprendre à se soumettre et de démontrer qu'il est soumis au Christ en n'ayant pas la tête couverte. Dieu nous demande d'obéir, puis autrement dit, de se tenir les cheveux courts en tant qu'homme. Il y en a peut-être, c'est la première fois qu'ils entendent ce sujet-là, mais c'est écrit dans Corinthiens 11. Allez lire 1 Corinthiens 11, puis ça parle pas mal pendant un bon paragraphe de l'histoire des hommes, les cheveux courts, puis les femmes, les cheveux longs. L'homme doit se soumettre puis marcher pour la gloire de son Dieu. Si un homme, en tant que chrétien, marche pour sa gloire, il va essayer de tout faire pour essayer de se plaire à lui-même. Mais s'il veut démontrer à Dieu qu'il est soumis à Dieu, il va commencer à obéir aux principes de Dieu. Puis l'un des premiers principes qui est dit dans ce passage-là, il va se faire couper les cheveux. Dans 1 Corinthiens 11, 7, ça nous dit « L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire que Dieu veut se glorifier dans l'homme. Je dis pas qu'il veut pas se glorifier dans la femme. C'est que Dieu va se glorifier dans la femme quand la femme va apprendre à vivre pour l'homme. Mais quand l'homme, il va découvrir qu'il a à soumettre à Dieu et à obéir à Dieu, là on voit, c'est le deuxième passage dans 1 Corinthiens 11 qui nous dit qu'on doit pas se couvrir la tête. Parce que quand on se couvre la tête, c'est comme si c'était une insulte à Dieu. Parce que Dieu, il veut nous voir, comme ça donne une image spirituellement, comme qu'on se découvre, puis qu'on c'est comme si on est la femme qui se découvre pour son mari. Dans l'ancien temps, ils mettaient un voile, puis là, ils se découvrent pour le mari. Mais les hommes doivent se découvrir pour le Christ.
Les hommes qui enlèvent une capuche, puis qui lui avouent quasiment pas à faire.
C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Puis s'il prie Dieu, oui, c'est justement ça. C'est ça. Ils veulent vivre dans les enfermés, tout ça.
Ouais,
exactement. Puis l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Même si aux yeux humains, on ne voit pas de différence que le gars il a les cheveux longs ou les cheveux courts, mais des fois on peut porter des remarques quand il a les cheveux longs. Mais pour Dieu, ça a une importance quand il voit que les gens se tiennent les cheveux courts en tant qu'homme. Ça démontre qu'ils respectent Dieu et qu'ils veulent se découvrir devant Dieu. Non.
Il avait des cheveux courts.
À cause de ce passage-là, Jésus n'avait pas les cheveux longs.
Non.
Puis si on y revoit un autre passage dans 1 Corinthiens 11, Paul il dit c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux, tandis que c'est une gloire pour la femme d'en avoir. Fait que si Paul il disait ça dans le temps de Jésus, c'est parce que c'était déjà une pensée qui était là, la même chose qu'aujourd'hui.
Paul était dans le temps de Jésus.
Oui.
C'était une fausseté, qu'est-ce qu'il nous montrait?
Oui, c'est une fausseté. Le Jésus des catholiques, le mettre les cheveux longs, puis en réalité, ils le mettent comme un visage, comme un sacerin canadien. Ça, il pouvait avoir la barbe, mais il avait le teint foncé, Jésus, parce que les Juifs avaient le teint foncé, plus foncé dans ce temps-là. Mais tout ça pour dire qu'on se fait des images, qu'on se fait des statues, puis ça déforme notre vision des vraies choses. Dans 1 Corinthiens, ça nous parle Tu veux prier Dieu, tu veux prophétiser, mais un des premiers signes, tu vas te garder les cheveux courts. Tu es une gloire pour Dieu quand tu le fais. C'est une honte pour l'homme quand il couvre la tête. Puis il faut savoir qu'on vit pour la gloire de Dieu. Moi, je dois vivre pour la gloire de Dieu, non pas pour ma gloire à moi. Si moi, pour ma gloire, je vais avoir les cheveux longs, ben, je me pense plus un king, mais si je veux obéir à Dieu, parce que c'est vrai que ceux qui ont les cheveux longs, ça lui monte dans le cœur, puis ils se pensent qu'ils ont atteint un niveau plus haut, ils se pensent des kings, mais en réalité, ils pensent qu'ils sont libres, mais en réalité, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de désobéir à Dieu, puis ils se soumettent pas à la volonté de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, Dieu nous appelle à soumettre à sa volonté. Il nous appelle à obéir à sa volonté. Il nous appelle à ce qu'on se conforme à sa manière à lui de voir les choses et non pas à la nôtre. Fait qu'en tant qu'hommes, nous autres, si on veut plaire à Dieu, il faut se garder les cheveux courts. Ça l'honore Dieu, puis Dieu y agrée ça. C'est peut-être un petit détail qu'il y en a qui vont dire. Oh, puis c'est peut-être même un détail culturel. Mais s'ils n'ont parlé dans la parole de Dieu, ben à cause qu'ils n'ont parlé dans la parole de Dieu, moi j'ai à mettre en pratique la parole de Dieu, puis tous les hommes ont à mettre en pratique la parole de Dieu. Fait qu'on doit obéir à la parole de Dieu, puis on n'est pas là assis en juge pour juger la parole de Dieu, puis commencer à la critiquer, puis commencer à dire que ça n'a pas d'allure, commencer à dire que Dieu, Paul n'avait pas raison, puis il n'aurait jamais dû dire ça, puis Paul il est dans le champ, puis là commencer à critiquer, on est en train de critiquer la révélation de Dieu. Parce qu'on croit que quand que les apôtres ont écrit le Nouveau Testament, on l'a vu dans d'autres passages, la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit, puis elle nous a été donnée comme enseignement de la volonté de Dieu. Paul, il dit, tout ce que je vous dis, c'est par révélation que je vous écris les choses. C'est Dieu qui a révélé sa volonté, fait qu'il nous l'a mis par écrit, puis ces lettres-là s'en allaient dans toutes les églises de ce temps-là. Puis si on va lire le passage dans 1 Corinthiens 11, où il parle de ça, puis le dernier verset, ça dit, pour ceux qui se plaisent à contester, nous n'avons pas cette habitude, ni les églises de Dieu. Autrement dit, il n'y a aucune église de Dieu qui se plaît à contester les enseignements de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a révélé comme étant les enseignements de la parole de Dieu, les gens ont à se soumettre à la volonté de Dieu. Même si ça nous plaît pas, puis même si on trouvera ça insignifiant, mais pour Dieu c'est important, c'est des petites choses qui démontrent que tu crois. On voit dans la parole de Dieu aussi que l'autorité spirituelle dans l'Église a été remise aux hommes. L'autorité spirituelle dans l'Église a été remise aux hommes. Où est-ce qu'on voit ça? Premièrement, dans les 12 apôtres. Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisi 12 hommes pour faire les 12 apôtres? Il y avait des femmes dans ce temps-là. Marie était là, Marie de Magdala était là. Il y avait plein d'autres femmes qui étaient là, qui entouraient, qui suivaient le ministère de Jésus. Puis s'il y en avait une qui était bien plus au courant de tout ce que Jésus, avant même que Jésus soit au monde, qui était là, un ange lui a apparu, c'est bien Marie. Elle a eu plein de révélations, des anges y ont parlé, elle a eu des prophètes qui ont parlé dans le temple, à elle puis Joseph, il y a eu des Siméon, il y a eu la profane, la prophétesse, il y a eu les rois mages qui sont venus y porter des présents avec des messages prophétiques, il y a eu les bergers qui ont apparu puis qui ont sont mis à louer Dieu puis à chanter puis il y a eu des visions, là, c'est des anges lui apparaître puis qu'ils sont... S'il y aurait eu bien quelqu'un à choisir qui avait eu plus de révélations, c'est bien Marie. Jésus n'a pas choisi de femme pour représenter, pour faire son premier groupe d'apôtres. Dieu a choisi des hommes. Puis c'est pas que les femmes n'auraient pas été aptes à le faire. C'est que c'était pas dans le plan de Dieu que les femmes le fassent. Dieu, quand il a créé Adam, il a donné l'autorité sur le jardin, puis après ça, il a créé Ève pour être son aide à Adam. Mais le ministère a été donné à Adam. pas à Ève. Adam aurait dû gérer Ève puis l'empêcher de prendre du fruit défendu. Adam, il a manqué son but de garder le jardin. Mais c'était Adam qui avait le rôle de gardien, c'était pas Ève. Mais dans la suite, dans les Actes des Apôtres, même dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, tous les prophètes, tous les prophètes qu'on voit dans l'Ancien Testament, puis la majorité des faits historiques où ce que la puissance de Dieu s'est manifestée dans l'Ancien, c'est toujours avec des hommes. À quelques exceptions qu'il y a eu des femmes qui sont intervenues. Mais majoritairement, ça a toujours été des hommes que Dieu a choisis. Dieu a un plan dans tout cela à vouloir utiliser les hommes comme étant des porte-paroles, comme étant des responsables, comme étant ceux à qui ce qui les tâches le sont confiés. Je dis pas que les femmes n'ont pas de rôle. Il y en a des rôles, puis on va le voir la semaine prochaine dans le rôle de la femme. Mais en tant qu'autorité spirituelle, ça a été remis aux hommes. Ensuite, même chose au niveau dans les églises, dans les autres églises autres qu'à Jérusalem. Les ministères d'autorité ont été remis aux hommes. Tu vois, dans Tite 1:5, Paul est en train de parler à Tite. Il dit, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il se trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. » Voyez-vous, l'apôtre Paul, en continuant le ministère, il établissait des anciens dans les églises, puis les anciens étaient choisis parmi les hommes. Dans les églises, ceux qui ont l'autorité spirituelle, c'est des hommes. La chose qu'on doit comprendre, que même si les hommes ont reçu l'autorité spirituelle là, devant Dieu, les hommes et les femmes ont accès aux promesses. C'est pas parce que on a une responsabilité de plus que les femmes ont rien. Non, les femmes ont les mêmes promesses au niveau du salut, puis ainsi de suite. Il n'y a ni homme ni femme quand tu es en Jésus-Christ. Il y a un passage qui est dit dans Galates 3:27. Ça dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Ça veut dire, si tu es une femme ou un homme, les deux peuvent accepter Christ puis devenir les héritiers de la promesse. Les femmes sont sauvées, la même chose que les hommes, là. Avoir une responsabilité de plus, ça ne veut pas dire qu'on est supérieur. C'est une responsabilité de plus, point. Les femmes aussi, ont part aux promesses de Dieu et aux bénédictions de Dieu, puis aux récompenses de Dieu. Mais en tant qu'homme, en tant que responsable, même dans le foyer, parce que Dieu a établi les hommes responsables de leur foyer, les hommes ont l'autorité spirituelle et l'autorité dans leur foyer. Je n'éplucherai pas tous les versets que la Bible a dit, là, mais les hommes, en tant qu'hommes, ils doivent rechercher la maturité pour devenir des vrais hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Tu n'es pas un homme automatiquement, dans le vrai sens du mot, parce que tu es du sexe masculin. Parce qu'il y en a qui sont du sexe masculin et n'agissent pas en homme. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Puis ils n'ont pas de maturité. Dans 1 Corinthiens 14:20, ça nous dit, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Puis à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire en tant qu'homme? De faire attention que de notre manière de vivre, qu'on réagisse en enfant sous le rapport du jugement. Au niveau de faire de la méchanceté, ça, soyez des enfants. Autrement dit, là, si tu as un caractère d'enfant au niveau de la méchanceté, tu ne chercheras pas à faire de méchanceté réellement. Ben, c'est rare qu'un enfant y est poussé vers le mal continuellement. Mais au niveau de la maturité, il nous demande à être des hommes. Puis quand tu es un homme, c'est ton rôle d'homme de prendre les décisions. C'est ton rôle d'homme d'avoir le dernier mot dans ta maison. Des fois, c'est « oui, chérie ». Mais il faut que tu aies le dernier mot, faut que tu peux donner des permissions. C'est une façon de parler. Non. Dieu veut qu'on gère, mais il n'a pas dit que notre femme n'avait pas un mot à dire. Mais dans la maturité, là, savoir analyser les choses pour avoir du jugement, la Bible nous dit d'être des hommes faits. Faut, si on veut grandir dans notre jugement, pour discerner ce qui est les bonnes affaires des mauvaises, des fois on a déjà une idée de fait, mais quand on lit la parole de Dieu, on s'aperçoit des vraies choses que la Bible nous dit. Tu veux être un homme, mais un homme affermi, un homme à la stature de Christ, tu as besoin de connaître la Bible pour être capable de l'enseigner dans la maison chez vous, puis être capable d'expliquer les choses. Tu as besoin de l'apprendre, tu as besoin de te laisser enseigner quand tu vas à l'église, d'écouter les enseignements, puis après ça, tu es capable de ramener les choses telles que Dieu veut qu'on les ramène, avec sagesse et avec maturité. Y a-tu quelqu'un qui n'a pas besoin de rien apprendre à ce niveau-là? Mais je pense pas qu'on va lever la main parce qu'on a tous de quoi apprendre. Moi, ça fait 30 ans que je suis chrétien, j'en cours plein d'affaires à apprendre. Dans ma manière de réagir pour d'agir en homme, j'ai plein d'affaires à apprendre. Dans Colossiens 1:28, Paul est en train de parler encore aux hommes. Il dit, c'est lui que nous annonçons en parlant de Jésus et de sa parole, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. On le sait que ça inclut la femme. Parce que quand on parle au masculin, ça inclut le féminin. Mais, comprenons là, Paul, il dit qu'il prêchait la parole de Dieu, puis il parle de Jésus, puis il parle de l'enseignement de Jésus en nous exhortant, puis en nous instruisant. En tant qu'homme, on doit apprendre à se laisser instruire en toute sagesse. Il faut apprendre à écouter, parce que des fois, on est un homme et on ne veut pas écouter personne. On veut avoir le dernier mot. Mais ce n'est pas de Dieu qu'on n'écoute pas. Il faut apprendre à écouter, s'instruire, pour qu'on devienne un homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est ça le but. Tout le monde doit devenir parfait en Jésus-Christ. Mais là, on parle aux hommes dans le sens masculin. Dieu veut que les hommes deviennent parfaits, qu'ils prennent le rôle d'homme, puis qu'ils soient des hommes. Quand je disais tantôt, il veut qu'on apprenne à être des vrais hommes. C'est au niveau du jugement, au niveau de notre manière de vivre, qu'on se laisse, qu'on écoute, puis qu'on apprenne à être des hommes, puis qu'on marche d'une manière parfaite. Y a-t-il un amen à cela?
Amen.
Gloire à Dieu. Puis là, je fais comme une petite évolution, bien vite, pour parler des hommes. La Bible, après ça, elle enseigne à l'homme, pour éviter les péchés sexuels, ils doivent se marier. Dans 1 Corinthiens 7:2, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et chaque femme son mari. Là, on parlait tantôt au début, c'est quoi les ministères du chrétien? Bon, les ministères de base du chrétien en tant que rôle d'homme, on a un rôle de responsabilité, on a un rôle qui doit venir en maturité pour qu'on soit des hommes à la stature de Jésus. Ça, c'est un ministère. Ça, même si on n'a pas le mot ministère d'être un homme, mais être un homme vrai devant Dieu, c'est un service pour Dieu, de jouer notre rôle d'homme jusqu'au bout. Puis là, on parle, tu as un problème de sexualité, marie-toi. Tu as le goût de sexe, t'es pas capable d'en passer, marie-toi, puis ça va devenir un autre ministère. Parce que là, tu as géré ta vie de couple en tant qu'homme, en tant qu'autorité que Dieu t'a donnée en tant qu'homme. Tu as l'autorité dans la maison, l'homme est le chef de la femme. Si on l'a lu tantôt dans un passage, que dans Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, que Dieu est le chef de Christ. Bon, mais là, il y a des hiérarchies que Dieu a placées, c'est pas moi qui les ai inventées. Dieu a placé, Dieu est en haut, Christ en deuxième, l'homme en troisième, La femme en quatrième, c'est pas que Dieu abaisse les femmes. Il y a un super de beau rôle de femme à jouer pour épauler son homme, puis que la bénédiction est dans le couple à cause de cela. Mais là, quand l'homme gère sa vie de mariage, ça fait partie d'un cours du ministère qui continue. Un homme, puis t'as un rôle de marié, tu deviens le rôle de mari, mais il y a des tâches à faire, puis il y a des responsabilités en tant que mari. Quel mode de vie qu'on doit avoir en tant que mari envers notre femme?
Ça fait plus sérieux.
Ça fait plus sérieux, mais est-ce qu'on a des choses que Dieu parle au mari dans le Nouveau Testament? Oui. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elles. C'est-tu beau? Jésus a donné sa vie pour son Église. Il est mort pour son Église. Un mari, c'est un homme qui veut vivre son rôle de mari, son ministère de mari. Il doit apprendre à aimer sa femme, puis à y donner sa vie. C'est comme un ministère. Dieu veut qu'on prenne soin de notre femme, qu'on l'aime, puis qu'on y fasse du bien, qu'on y donne ce qu'elle a de besoin, puis qu'on pourvoie comme Christ a pourvu pour son Église, puis a donné sa vie pour elle. Ça a de l'air insignifiant, mais c'est un mode de vie qui doit se vivre tous les jours. Tous les jours, les hommes doivent vivre en homme, puis de soutenir leur femme, puis de l'aimer leur femme. Un autre passage qui parle encore de cela, dans Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes, c'est la même chose, sauf, et ne vous aigrissez pas contre elles. Qu'est-ce que ça veut dire, aigrir?
Pas choqué après.
C'est ça. Même si l'homme a le réflexe naturel, c'est naturel pour l'homme de choquer.
Génial.
Parce qu'il se pense, c'est pas qu'il se pense tout le temps, c'est... Il vit son rôle d'autorité, puis il pense qu'il faut qu'il soit en autorité, c'est égal se choquer, puis commencer à donner des ordres, puis commencer à dire, hey, c'est un réflexe qui est naturel, humainement parlant. Mais c'est pas quelque chose que Dieu veut qu'on se laisse aller. Il veut qu'on fasse mourir les actions de notre corps, qui sont dans la colère, l'agressivité, le se fâcher, puis d'essayer d'écraser, puis de dominer. Même si quelqu'un il est dans un rôle d'autorité à quelque part, c'est pas pour écraser puis dominer les autres, c'est pour donner l'exemple puis essayer de prendre soin puis d'aider. Nos dons qu'on a, c'est pour aider l'autre, c'est pas pour l'écraser. Quand tu travailles au magasin, puis l'autre il est ton patron, puis là toi tu es là, t'aimes ça le servir quand l'ambiance est bonne, c'est même le fun de le servir. Mais quand l'autre t'écrase, puis il dit des bêtises devant tout le monde, puis il se fâche, puis il te crie, il se met en colère, puis il dit des affaires qui te blessent, t'as plus la motivation de le servir, puis de servir ton boss, t'es même tanné, tu veux lâcher la job. Mais la vie de couple, c'est la même affaire. L'homme, faut qu'il apprenne à l'aimer, puis à pas se mettre en colère.
Puis le mari, pour qu'il soit fidèle par sa femme, faut pas y être riche. Le Seigneur, il aime pas ça.
Oui.
Pour qu'il soit fidèle.
Oui, j'ai pas...
Ça, les appels hypocrites, il aime pas ça.
Il faut être fidèle à notre femme, puis...
Quand t'es chrétien.
C'est ça. Je parlerai pas de tout le rôle de l'homme, puis de la femme, puis toutes les allées et venues. C'est pour juste pour nous mettre sur la piste qu'être un homme, c'est un ministère. Être un mari, c'est un ministère. Autant que prier, c'est un ministère. Louer, c'est un ministère. Être quelqu'un dans la société, puis qui prend ses responsabilités, puis qui va travailler, puis ainsi de suite, c'est un ministère devant Dieu. J'en ai parlé la semaine passée. Faut prendre nos ministères. Puis là, il y a un autre passage qui est beau dans 1 Pierre 3, le verset 7. Ça dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi irriter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Les hommes doivent user de sagesse envers leurs femmes. On le sait qu'ils sont des gens plus faibles, mais des fois, ils manquent de sagesse, puis ils sont rough avec. Les hommes doivent apprendre à aimer leur femme, user de sagesse, puis d'en prendre soin comme si c'est un sexe plus faible. C'est vrai que les femmes sont plus faibles, mais c'est pas une raison de les faire mal.
C'est ça.
Il faut les en prendre soin, puis les aider dans ce qu'ils ont à faire. Il faut les honorer. Les honorer, ça veut dire quoi?
Les aimer.
Non, honorer.
Les mettre les autres, les mettre
oui.
Sur le pignon de la maison.
Leur donner des honneurs. Tu sais, c'est des compliments, là. Ça monte, ça fait monter. On donne des honneurs à quelqu'un, on donne des compliments qu'elle est belle, qu'elle est fine, qu'il n'y a personne qui fait un meilleur pâté chinois qu'elle. C'est toutes des affaires que les femmes aiment entendre. Puis ça les valorise, ça leur fait du bien. Mais il faut être capable, en tant qu'homme, d'être capable de dire des belles paroles à nos femmes. Parce que les femmes vont hériter du royaume, la même chose que les hommes. C'est sauvé, à donner sa vie au Seigneur, et pardonner elle aussi, à avoir allé dans la vie éternelle, la même affaire. Puis si un homme comprend pas ça, puis vit avec méchanceté avec sa femme, puis dit des paroles blessantes, puis il y a des honneurs, puis ainsi de suite, ça va mettre un obstacle à ses prières. Il pense d'être béni de Dieu quand il est méchant avec sa femme, puis il se repent pas. Il ne sera même pas exaucé, ça va être des blocages dans ses prières. Notre vie de couple, là, plus que ça, qu'on travaille là-dessus pour qu'on fasse nos efforts pour que ça aille mieux, mais Dieu il aime ça, puis Dieu après ça est attentif à nos prières. Si on est rough avec notre femme, oublions ça, Dieu il aime pas ça, puis Dieu exauce pas nos prières. Puis un dernier petit point que je vais apporter, c'est juste en tant que rôle dans le couple, comme Marie, puis des fois, tu as des enfants, tu es un père aussi, dans ton rôle de homme, Marie, père.
D'accord.
Il faut apprendre à fonctionner aussi avec nos enfants. Dans Éphésiens 6, 4, ça nous dit, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » En tant qu'homme, on doit apprendre à parler à nos enfants pour pas les mettre en colère puis les mettre en irritation. Puis il faut les élever en les corrigeant puis en les instruisant selon le Seigneur. Fait que quand on a des choses à leur dire, il faut y aller avec la sagesse de Dieu, puis les conseils de Dieu, puis les pensées de Dieu, puis les instruire dans la parole de Dieu. Puis c'est de même qu'on va les aider à grandir. Puis s'ils sont rendus adultes, mais là, ils nous disent qu'ils sont majeurs et vaccinés, puis qu'ils veulent pas entendre qu'est-ce qu'on a à dire. Mais là, on a juste à prier pour eux autres. On n'est plus en autorité sur eux. C'est plus à nous à gérer leur vie, à moins qu'ils habitent chez vous, tant qu'au tes règlements de maison. Mais quand même, faut faire attention de la manière qu'on leur parle. C'est facile de se laisser aller puis continuer à parler comme qu'on leur parlait avec sévérité, puis ainsi de suite. Il faut apprendre à fonctionner, puis de lui parler avec douceur, puis selon le Seigneur. C'était ça, les petits conseils d'un rôle, puis des responsabilités de l'homme, du mari et du père de famille. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on s'approche. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, parce qu'il y a bien des choses qui parlent à nos cœurs, qui nous ramènent dans une vision claire, qu'on n'est pas l'autorité suprême, qu'on a à soumettre aux autorités qui sont au-dessus de nous, dans cette société, mais aussi Jésus, Yeshua, qui est notre autorité, il est le Christ. Puis toi, Père, qui es Dieu, tu nous as donné des enseignements, des révélations dans ta parole dans le Nouveau Testament pour nous donner à être des hommes à la stature de Jésus. Je te demande de nous donner ta sagesse, nous donner la compréhension de ces choses, puis nous donner de la capacité de vivre ces choses-là, pour qu'on se laisse plus aller selon les penchants naturels, selon notre chair, puis qu'on ait la victoire dans nos vies, puis qu'on marche conformément à ta parole. Fait qu'on remet nos vies entre tes mains, Seigneur, puis tu viennes nous changer, nous transformer, qu'on soit comme selon tes attentes. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.